Bien, je vous remercie tous d'être là dans cet interminable feuilleton. Je vous ai laissé la dernière fois à la fin de l'année 1996, au moment donc où la négociation du processus de paix avait repris, mais simplement la négociation pour la renégociation de l'accord sur Hébron. Et ce n'est même pas un pas en avant, c'est un retour en arrière. Alors il y a toute la dramaturgie habituelle des négociations israélo-palestiniennes avec des explosions de colère de l'un ou de l'autre, une intervention de Moubarak, ce qui fait très bien pour lui, puisque comme ça, il montre qu'il est utile. Des coups de téléphone du secrétaire d'État, des menaces de laisser tomber, et ainsi de suite. Dans ce contexte, il faut noter un attentat à Damas le 1er janvier 1997 qui fait de nombreuses victimes. La presse syrienne accuse Israël et la Turquie. Les États-Unis protestent. Mais Damas répond que les États-Unis n'ont même pas condamné l'attentat en question. De ce fait, on répare l'oubli. Et au Liban Sud, la guerre de basse intensité se poursuit entre l'armée israélienne et la Hezbollah, mais l'installation du comité de surveillance joue positivement. Et permet d'éviter des escalades d'un côté ou de l'autre. Je vous rappelle donc ce comité de surveillance qui avait été négocié par Hervé de Charette en particulier, donc faisait un double contrôle américain et français sur les actes de guerre au Liban, chacune des deux parties s'engageant à ne pas frapper de populations civiles. La grammaire est très simple. Si des populations civiles libanaises sont atteintes par des tirs israéliens, le Hezbollah réplique par des tirs sur la Galilée israélienne. Donc, dans ce contexte, on arrive finalement à la mi-janvier, la 14-15 janvier, un accord entre les deux parties qui est ensuite ratifié par le Conseil des ministres israéliens par 11 voix contre 7, puis par la Knesset par 87 voix contre 17 le 16 janvier, les travaillistes ayant voté pour l'accord, alors qu'une partie de la droite israélienne s'y est opposée. Mais en tout cas, Netanyahou semble ainsi disposer dans ce domaine d'une forte position parlementaire. Et surtout, il peut laisser planer la menace sur les membres de sa coalition de toujours avoir recours à un cabinet d'union nationale avec les travaillistes s'il y a des défections venant trop sur sa droite. Donc, cette négociation qui a duré plus de 7 mois comprend donc d'une part une renégociation de l'accord d'Hébron et d'autre part un engagement de respecter les accords précédents, ce qui est plutôt inquiétant pour l'avenir. Le premier élément est le protocole pour la mise en œuvre du redéploiement de l'armée israélienne à Hébron. On conserve la division de la ville en deux zones. H1 pour celles qui passent sous la responsabilité israélienne et H2 qui reste sous contrôle israélien. Alors, si vous voyez sur la carte, H2 est plus petit, évidemment, mais comporte le centre-ville avec la mosquée ibrahimite, donc le tombeau des patriarches, tandis que le reste de l'agglomération est laissé à contrôle palestinien. Les arrangements de sécurité sont extrêmement détaillés, comprenant une définition stricte du nombre de l'armement des policiers palestiniens. On rétablit la présence internationale temporaire, le PITH, à Hébron, c'est-à-dire la présence d'observateurs qui n'ont que, internationaux qui n'ont qu'une seule fonction, c'est de dire qui a fait quoi lors des incidents à Hébron. Une note pour compte-rendu a été rédigée par Dennis Ross. Elle est censée résumer ce quoi Arafat et Netanyahou se sont mis d'accord. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur engagement à appliquer l'accord intérimaire sur la base de la réciprocité. Et on évoque le premier redéploiement israélien de Cisjordanie pour le mois de mars, mais sans indication pour la suite. On rappelle le début des négociations sur le statut permanent, aussi dans les deux mois. Et enfin, les Palestiniens s'engagent à activer le processus de révision de la charte palestinienne et à combattre le terrorisme et la violence. Ce qui est frappant dans l'accord sur Hébron, c'est la précision minutieuse dans les détails qu'on trouve par exemple dans le plan américain pour la rue Chuada, artère actuellement fermée de la ville d'Hébron. Les Américains, par le biais de l'USAID, c'est-à-dire l'aide américaine à l'étranger, s'engagent à rénover la rue. On a ainsi un texte diplomatique précisant « L'USAID a l'intention de financer et de gérer l'amélioration des infrastructures, essentiellement des canalisations d'eau potable et d'égouts sanitaires, dans la zone de la rue Chuada pour faciliter l'accès aux services. » En liaison avec cette réhabilitation des infrastructures, l'USAID dirigera des travaux de rénovation dans la zone située dans les limites de la rue, de façon à offrir un environnement sûr et attractif pour les entreprises et les commerces locaux, pour les piétons et la circulation des véhicules. La rue telle qu'elle existe aujourd'hui sera complètement reconstruite sur une distance d'environ 700 mètres, y compris la place Grosse, ainsi qu'une portion de longue de 200 mètres de la rue Tamé et un segment de 100 mètres conduisant à la porte de la vieille ville. Donc vous voyez le degré dans les détails, on va même jusqu'à spécifier la largeur des trottoirs dans cet accord international. L'ampleur de l'asphaltage, le ravalement des façades, la peinture des portes, l'installation des poubelles et autres détails de ce genre. Donc, ça montre que le processus de paix est en train de se dissoudre dans les détails les plus élémentaires, taille d'un trottoir, ravalement, peinture de porte, et ainsi de suite. L'ensemble des documents se conclut de deux lettres d'assurance envoyées par Christopher, respectivement à Netanyahou et à Arafat. La première, immédiatement rendue publique, comprend une réaffirmation de l'engagement américain en faveur du processus de paix et de la conclusion d'une paix juste et durable. Après ces formalités rhétoriques, vient l'essentiel. Le secrétaire d'État a insisté auprès d'Arafat sur la nécessité impérative que l'autorité palestinienne fasse tous les efforts pour assurer l'ordre public dans la Cisjordanie et la bande de Gaza. La mise en œuvre de cette responsabilité principale sera une base critique pour accomplir l'exécution de l'accord intérimaire, aussi bien qu'au processus de paix dans son ensemble. Il a informé Arafat des perspectives américaines sur les redéploiements et les transferts de compétences. La première phase devrait avoir lieu dès que possible et les autres avant la mi-1998. La conclusion est essentielle parce que ce sera un des éléments du dossier pour la suite des événements. Monsieur le Premier ministre, vous pouvez être assuré que l'engagement des États-Unis en faveur de la sécurité d'Israël est solide comme le roc, ce qui n'est pas une simple métaphore, parce que le terme « roc » est souvent utilisé dans la région. Enfin là, c'est « ironclad » en anglais, c'est-à-dire « cuirassé », et constitue la pierre angulaire fondamentale de nos relations spéciales. L'élément clé dans notre approche à la paix, y compris les négociations et l'exécution des accords entre Israël et ses partenaires arabes, a toujours été une reconnaissance des exigences de la sécurité d'Israël. D'ailleurs, l'essence de la politique des États-Unis reste notre engagement à travailler en coopération pour chercher à répondre aux besoins de sécurité identifiés par Israël. En conclusion, je voudrais réitérer notre position qu'Israël est en droit d'avoir des frontières sûres et défendables qui devraient être directement négociées et définies par l'accord avec ses voisins. Alors là, nous voyons à travers la rhétorique que pratiquement la diplomatie américaine reconnaît l'exigence israélienne d'annexion territoriale en Cisjordanie en fonction des impératifs de sécurité. Et surtout, la lettre de Christopher, qui est son testament politique, donne à Israël le droit de définir l'ampleur et la date des redéploiements à venir. Alors, tout le monde se félicite de cet accord qui permet la relance du processus de paix. Le véritable vainqueur est Netanyahou, qui, en simplement renouvelant un engagement de ses prédécesseurs, a la conviction de s'être assuré le contrôle définitif de la Cisjordanie. C'est ce que Netanyahou expliquera plus tard dans un entretien avec Charles Anderlin. Je cite « Cela me fut très difficile. En fait, je n'ai pas renoncé à la partie juive d'Hébron. Nous n'avons pas renoncé au quartier juif et au lieu saint, le caveau des patriarches. Malgré tout, oui, ce fut difficile. Certes, l'accord avait été conclu par mon prédécesseur, mais j'avais une idée en tête. Si j'obtenais la réciprocité sur les 10 points d'Arafat, la lettre des Américains, j'échangeais la partie arabe d'Hébron contre le reste de la Judée-Samarie. Renoncer à du territoire est difficile. Il s'agit d'une partie de ma terre, d'un lieu où mes ancêtres, les prophètes et les rois d'Israël ont vécu, et où tant de générations de Juifs ont rêvé de retourner. J'allais donc appliquer l'accord dans l'intention de conserver en échange la totalité, ou presque, de la Judée-Samarie. » Donc on voit combien Netanyahou se sent assuré par la lettre de Christopher de la poursuite de sa politique. Arafat n'est évidemment pas dupe. Il se méfiait déjà beaucoup de Shimon Peres et n'a aucune confiance en Netanyahou. Il n'espère plus rien dans le processus de paix, en tout cas dans son état actuel. Ross lui est apparu totalement engagé du côté israélien, n'exerçant ses pressions que sur la partie palestinienne. Il n'a pas tort, puisque de l'aveu même de l'intéressé, les résistances inégales de ses interlocuteurs palestiniens lui apparaissent comme autant de dysfonctionnalités au sein de l'équipe de négociation palestinienne. Durant la négociation, beaucoup de personnalités palestiniennes ont évoqué sa partialité en faveur d'Israël. Le département d'État a pris sa défense. Si cela était vrai, les Palestiniens n'auraient pas demandé qu'il soit l'intermédiaire entre Israéliens et Palestiniens. Mais la réponse est, est-ce qu'ils avaient le choix ? Arafat considère qu'il doit être prêt à s'engager, si nécessaire, à l'épreuve de force, tout en continuant de jouer sur le processus diplomatique. Sans illusion, il présente à son public l'accord sur Hébron comme une victoire, mais il a perdu la foi dans la seule voie des négociations. Bien entendu, l'opposition palestinienne évoque une nouvelle capitulation. Pour le Hamas, je cite, « Le maintien de la mosquée d'Abraham sous le contrôle des sionistes avec l'aval d'Arafat est un précédent dangereux équivalent à un crime national. » Fin de citation. La Syrie et le Liban insistent sur le dangereux précédent de devoir renégocier des accords déjà conclus. Cela renforce la conviction de Damas qu'il ne peut y avoir d'accord partiel qui aboutisse à l'établissement de faits établis en faveur d'Israël. L'accord est appliqué sur le terrain dès le 17 janvier 1997 avec l'opération remise des clés organisée par l'armée israélienne. La passation des pouvoirs s'effectue sans heurts, presque en douceur. Le 19 janvier, Arafat est reçu à Hébron dans une atmosphère de liesse populaire. Il se montre en public particulièrement optimiste. Je cite, « Certains prédisaient que nous n'irions pas au-delà de Gaza et de Jéricho. Aujourd'hui, nous sommes ici à Hébron. Demain, nous serons à Jérusalem. » Il se félicite du vote de la Knesset et présente même Netanyahou comme son ami et son partenaire dans le processus de paix. Dans la foulée, les États-Unis espèrent que la Syrie acceptera la reprise des négociations. Mais on se heurte à l'exigence israélienne de négociations sans préalable, alors que Damas ne veut entendre qu'une négociation sur la base de ce qui avait déjà été avancé dans les séances précédentes. Autrement dit, Damas maintient évidemment son exigence des lignes des 4 juin 67, tandis que Jérusalem n'entend que faire la paix en conservant le Golan. De surcroît, une déclaration de Madeleine Albright, donc la nouvelle secrétaire d'État, lors de ses auditions de confirmation au Sénat, inquiète les Syriens. Au lieu de l'habituelle formule « les États-Unis soutiennent une paix juste et complète et durable »,« just comprehensive and lasting », elle a utilisé la formule « une paix sûre, complète et durable »,« secure, comprehensive and lasting ». Elle paraît ainsi endosser les exigences israéliennes en matière de sécurité, qui se traduisent toujours par des revendications territoriales. Le 24 janvier, Madeleine Albright prête serment. C'est la première femme à exercer la fonction de ministre des Affaires étrangères des États-Unis. C'est à peu près à ce moment, au moment de sa prestation de serment, qu'elle découvre en même temps que la presse que ses parents, son père était un diplomate tchèque passé à l'Ouest après le coup de Prague et devenu ensuite professeur d'université aux États-Unis, étaient d'origine juive et qu'ils se sont convertis au catholicisme probablement avant sa naissance. Elle a été élevée dans le catholicisme et ses parents ne lui ont jamais parlé de cette conversion. Elle ne savait pas que 3 de ses 4 grands-parents étaient morts dans des camps de concentration nazis. Autre dossier, au passage, les États-Unis exercent des pressions sur l'Afrique du Sud qui vient de conclure un important contrat d'armement avec la Syrie. Ils menacent d'interrompre un certain nombre d'aides au nom de la législation américaine contre les pays qui soutiennent le terrorisme, la Syrie étant classée dans cette catégorie. Outre l'intérêt économique, l'Afrique du Sud de Mandela n'a pas oublié le fait qu'Israël était l'allié du régime de l'apartheid et qu'inversement, les mouvements palestiniens avaient apporté un soutien politique à l'ANC durant la lutte pour l'Afrique du Sud. Sur le plan intérieur, Netanyahou doit affronter un grave scandale politique. Il a nommé comme attorney général, conseiller juridique du gouvernement, un parfait inconnu qui a dû démissionner rapidement du fait de la faiblesse de ses titres pour occuper une telle fonction. La presse accuse le Premier ministre d'avoir passé un marché avec le chasse. Qui aurait approuvé l'accord sur Hébron contre l'engagement d'accorder à son dirigeant accusé de corruption, Arié Dery, un arrangement judiciaire, plea bargain, qui lui permettrait de continuer sa carrière politique. Cette affaire, surnommée le Bibi Gate, va peser plusieurs mois sur le chef du gouvernement, Eliakim Rubinstein, l'ancien négociateur avec les Jordaniens et les Palestiniens, personnalité respectée, devient attorney général. Une enquête judiciaire est lancée, tandis que Netanyahou accuse la presse et la télévision d'être au service de l'opposition. Je rappelle que dans le système israélien, l'attorney général, qui est un peu l'équivalent du ministre de la Justice, est une personnalité non politique. C'est un magistrat indépendant. Et donc, c'est une fonction importante puisqu'il a le droit d'ouvrir des poursuites et de contrôler les poursuites judiciaires. Donc, c'est un élément essentiel dans le système israélien qui donne à la justice israélienne une très grande indépendance par rapport aux forces politiques. La relation entre Netanyahou et les partis religieux de sa coalition a relancé le débat traditionnel sur l'identité juive. En Israël, l'orthodoxie juive est religion d'État et refuse de reconnaître la légitimité des grandes obédiences non orthodoxes de la diaspora, singulièrement ce qu'on appelle les conservateurs et les libéraux, qui sont majoritaires aux États-Unis. Pour satisfaire ses alliés politiques, Netanyahou a proposé une loi rejetant la validité des conversions non orthodoxes, ce qui a provoqué une tempête de protestations chez les Juifs américains. Deux visions du monde s'opposent. La plus grande communauté juive a adopté le principe du pluralisme religieux et de la séparation complète de l'État et de la religion, alors que l'État hébreu rejette ce pluralisme et cette séparation. L'enjeu immédiat est l'abandon par le judaïsme réformé de l'exclusivité de la transmission de l'identité juive par les femmes, ce qu'on appelle la transmission matrilinéaire, et son acceptation de la transmission de l'identité par les hommes, ce qu'on appelle la transmission patrilinéaire. De ce fait, des dizaines de milliers de juifs américains ne sont pas reconnus comme tels par l'establishment juif religieux israélien. Devant le risque de fracture à l'intérieur du monde juif, le gouvernement israélien décide la formation d'une commission chargée de trouver un compromis acceptable pour les deux parties, ce qui permet au moins de gagner du temps. Au bout de quelques mois, la solution de compromis proposée sera rejetée par les tenants les plus durs de l'orthodoxie, mais le projet de loi a été dans l'intervalle abandonné, ce qui était le but principal. C'est tout le problème de la conversion au judaïsme. Vous pouvez être juif par transmission et être pratiquement athée, vous restez juif. Mais si vous voulez devenir juif, vous devez être dans les lignes de l'orthodoxie la plus stricte du point de vue religieux. Ça, c'est la position de l'orthodoxie juive majoritaire, enfin, dominante, qui contrôle les institutions religieuses en Israël, alors que les conversions au judaïsme sont beaucoup plus souples dans la diaspora, en particulier évidemment dans le judaïsme réformé américain, qui est souvent prosélyte et qui donc ne suit pas du tout les règles très dures de l'orthodoxie juive, sans parler des complications, puisque certaines communautés juives, comme la communauté juive marocaine, sont plus souples sur les conversions que l'orthodoxie israélienne. Donc là aussi, il y a des conversions qui ne sont pas reconnues en Israël. En tout cas, Netanyahou se voit accusé de, par une part de l'opinion publique, d'avoir provoqué une crise grave au sein du judaïsme pour simplement satisfaire des intérêts de coalition politique, d'avoir une vision politicienne des choses et non pas de saisir des éléments plus fondamentaux du problème de la définition de l'autorité juive. Autre problème juridique, nous avons un chef du Hamas à l'extérieur de la Palestine, Abu Marzouk, qui a été arrêté aux États-Unis et emprisonné depuis 18 mois et qui a été exposé à une demande d'extradition par Israël. Et il refusait en affirmant qu'il ne pouvait pas espérer bénéficier aux États-Unis de la même justice que les autres dès lors que des intérêts israéliens sont en jeu. Et donc, Abu Marzouk, à la surprise générale, demande d'être envoyé en Israël. Les responsables palestiniens sont affolés parce qu'ils craignent qu'un jugement de ce chef du Hamas provoque une explosion de violence. Et du coup, les États-Unis, Israël et l'autorité palestinienne se trouvent considérablement embarrassés. Finalement, pour éviter une explosion de violence, les Israéliens renonceront à demander l'extradition d'Abu Marzouk, ce qui provoque un imbroglio juridique complet, puisque la justice américaine exige, pour pouvoir l'expulser des États-Unis, qu'il reconnaisse être un terroriste. Ce que lui refuse. Et donc, il y a de nouveaux débats devant les tribunaux américains. Et finalement, il accepte de ne pas contester les charges pesant contre lui et de renoncer à son statut de résident permanent aux États-Unis. Et il est renvoyé en Jordanie, qui l'accueille pour des raisons dites humanitaires. Et le roi Hussein a beau jeu de montrer l'inconséquence de la politique américaine, pour ce qu'il lui demande à la fois d'interdire les activités du Hamas dans son royaume et en même temps de recevoir l'un de ses principaux chefs. Néanmoins, il mise sur Abu Marzouk pour persuader le Hamas d'adopter une ligne plus modérée avec la conclusion d'une trêve, Hodna, avec Israël. Mais Abu Marzouk s'est déconsidéré auprès de ses camarades en se rendant contre leur avis aux États-Unis et a été remplacé dans les fonctions de direction par Khaled Mishal, dont nous aurons beaucoup à parler, réputé être beaucoup plus radical. Le 4 février 1997, une catastrophe frappe l'armée israélienne. 73 soldats sont tués dans une collision d'hélicoptères à destination du Liban Sud, où la tension est très forte. Israël ayant perdu 4 soldats en janvier et 3, dont 3 à la fin du mois. Si c'est l'affaire est accidentelle, elle n'en pose pas moins le problème de la perpétuation de l'occupation de la zone de sécurité. Et finalement, on arrive aussi au règlement de la question des 31 prisonnières palestiniennes qui auraient dû être libérées si Ezer Weizmann, la présidente, s'y était pas opposé. Weizmann cède et accorde son droit de grâce et c'est libéré. Alors, nous allons voir quelque chose de plus intéressant quand même maintenant, qu'on peut appeler brièvement l'économie politique de l'autorité palestinienne. C'est au début de février 1997 que commencent les critiques insistantes sur l'organisation économique de l'autorité palestinienne. Comme on l'a vu du fait de l'occupation, la production est dominée par de très petites entreprises. L'arrivée de l'argent de l'aide internationale a pour ambition de créer des entreprises de plus grande taille, indispensables pour le développement, et en même temps, ce sont des instruments de contrôle politique de la part du pouvoir arafatiste. Le financement de l'autorité palestinienne dépend en moyenne pour 2/3 de la rétrocession des recettes douanières par Israël et pour 1/3 de l'aide internationale. Bien évidemment, il y a une différence entre ce qui est promis et ce qui est effectivement déboursé. C'est d'ailleurs le baromètre de l'intérêt porté par la communauté internationale à l'autorité palestinienne. Comme vous voyez sur le tableau, les engagements étaient de 789 millions de dollars pour 1994 et les déboursements 524 millions, ce qui est un taux de 66%. Pour 1995, 605 millions d'engagements, 416 de déboursements, 69% donc de taux. 886 millions de dollars pour 1996, 537 déboursés, 61% donc pour le taux. 620 millions pour 1997, 486 déboursés, soit un taux de 78%. Et pour 1998, 655 millions de dollars engagés, 330 déboursés, soit un taux de 50%. De toute façon, cette aide étrangère se heurte aux faiblesses de la capacité économique d'absorption. Du fait de la situation antérieure, le secteur de la construction n'a pas la capacité de faire face à la demande. Les services financiers sont sous-développés, l'infrastructure est déficiente. De plus, en particulier à Gaza et à Ramallah, on a une forte spéculation sur les terrains à bâtir. On doit ajouter que le morcellement en trois zones de la Cisjordanie constitue un handicap considérable. L'autorité palestinienne n'a pas d'autorité effective en zone C et doit passer par les autorisations israéliennes en zone B. Tout ce qui concerne l'accès aux ressources naturelles est strictement limité, en particulier tout ce qui touche aux ressources en eau. Les planificateurs internationaux avaient compté sur les investissements privés venus de l'extérieur, en particulier sur ceux de la diaspora palestinienne. S'il y a eu un réel intérêt au début de l'expérience, on a rapidement déchanté. L'incertitude politique, la lourdeur des règlements qui cumulent les héritages ottomans britanniques, égyptiens à Gaza, jordaniens en Cisjordanie, plus les ordonnances militaires israéliennes, se traduisent par un chaos juridique total. D'ailleurs, une des grandes aides que la France apportera effectivement à l'autorité palestinienne est d'avoir envoyé un comité, enfin une mission juridique en Palestine, simplement pour pouvoir identifier les différents textes régissant les territoires palestinien, puisque aucun juriste, même palestinien, n'est capable à ce moment-là de connaître la totalité des ordonnances militaires israéliennes, des législations jordaniennes et égyptiennes, et ainsi de suite. Vous comprenez en plus qu'à chaque fois on change de jeu, puisque la législation ottomane était une islamique d'inspiration matinée du droit européen, plutôt français, de la fin du XIXe siècle. Évidemment, quand les Anglais sont passés par là, ils ont rajouté une couche de common law. Ensuite, vous avez les droits égyptiens et jordaniens qui sont d'inspiration différente. Et puis ensuite, le droit israélien s'est rajouté dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement un empilement de textes juridiques, mais ces textes juridiques n'obéissent pas aux mêmes logiques. Ce qui est un facteur de difficulté. Puis vous avez le choc des longues périodes de fermeture imposées par Israël. Tout cela, évidemment, entrave la productivité israélienne. Même en temps normal, c'est-à-dire sans bouclage, le mouvement des marchandises est entravé par des considérations sécuritaires israéliennes. Au contrôle de sortie, on exige de déballer puis de remballer les produits, ce qui introduit un coût supplémentaire, une perte de temps considérable. Ainsi, les produits périssables deviennent pratiquement inutilisables du fait de la lourdeur des procédures israéliennes. Il en est de même pour l'aide matérielle extérieure, comme des camions, des ordinateurs ou des matériels anti-incendie qui peuvent se trouver bloqués pendant des mois aux douanes israéliennes, avec l'obligation supplémentaire de payer les frais de stockage. Le matériel destiné au port et à l'aéroport de Gaza est particulièrement visé du fait de la sensibilité de ces questions. D'où d'ailleurs le problème d'interprétation que pose tout cela. Est-ce que c'est une volonté organisée du gouvernement israélien de faire du sabotage économique ? Ou est-ce le libre jeu de la bureaucratie israélienne qui bloque éventuellement sans référer à des échelons supérieurs? En tout cas, il est beaucoup plus intéressant d'investir en Jordanie, puisque c'est en Jordanie que commencent à se mettre en place les QIZ, les Khalifa Industrialized Zones, qui sont des parcs industriels là, qui peuvent exporter sans droit de douane aux États-Unis. Et pour qu'il y ait un quiz, il faut qu'il y ait un minimum de 10% d'investissement israélien dans le quiz. Ceci pour donner une rentabilité économique à la paix israélo-jordanienne. Alors, le résultat du quiz, si on fait la caricature, c'est du matériel chinois, par exemple des téléviseurs, qui sont montés par des ouvriers philippins en Jordanie pour être consommés aux États-Unis. Mais ça donne des résultats quand même assez fulgurants, puisque les exportations de produits manufacturés jordaniens vont passer de quelques millions de dollars à plus de 2 milliards de dollars à la fin de la décennie. Mais comme tous ces parcs industriels qui sont assez analogues à ce qu'on appelle les maquiladores en Amérique centrale, ne provoquent pas de phénomène d'industrialisation véritable. De fait, le secteur privé n'a pas les moyens de prendre le relais de l'aide internationale. Il faut souligner sur ce point qu'en dehors des proches d'Arafat autorisés à résider en Palestine par les Israéliens, les hommes d'affaires de la diaspora palestinienne ne peuvent entrer qu'en disposant d'une nationalité occidentale, la plus souvent américaine, et d'un visa de tourisme renouvelable tous les 3 mois par les autorités israéliennes. C'est un instrument de chantage du côté israélien, mais c'est un puissant instrument de dissuasion pour l'investissement dans les territoires palestiniens. Dans le secteur public, l'autorité palestinienne manque de cadres expérimentés et il faudra plusieurs années pour former une véritable infrastructure. De surcroît, l'organigramme est redondant avec des institutions concurrentes comme le PECDA, Palestinian Economic Council for Development and Reconstruction, qui fait face au ministère de l'autorité palestinienne. Le nombre de fonctionnaires croît très rapidement. En octobre 1994, on a 35 000 personnes, dont 12 000 dans les services de sécurité. À la fin de 1997, on en est à 86 800, dont 38 400 dans les services de sécurité. Autrement dit, l'autorité palestinienne constitue déjà elle seule 16% de la main-d'œuvre disponible. Les traitements des fonctionnaires représentent 55% des dépenses budgétaires et 12% du produit intérieur brut. Pour l'autorité palestinienne, un tel développement du secteur public est indispensable pour parer à l'extension du chômage et maintenir un certain niveau de vie générale de la population, vu l'importance des solidarités familiales. Autrement dit, les 86 000 fonctionnaires de l'autorité palestinienne font vivre plus d'un demi-million de personnes qui bénéficient ainsi de l'argent distribué par l'autorité. C'est en même temps pour Arafat le moyen d'exercer son clientélisme en fournissant des emplois même improductifs. On récompense ainsi la loyauté politique et on détourne les gens de s'adresser à l'opposition, en particulier au Hamas. Étant donné la faible taille du territoire et de la population, il n'est pas question de se voir développer des structures concurrentielles. Même Israël souffre de maux de ce type. L'autorité palestinienne a ainsi favorisé l'expansion de monopoles publics ou privés contrôlant d'importants produits de base, pétrole, ciment, tabac, farine, acier, matériaux de construction, etc. L'une des raisons est le fait qu'Israël ne reverse les droits de douane que pour ce qui a été acheté directement par les Palestiniens à l'extérieur et non pour ce qui est passé par le biais des entreprises israéliennes et redistribué par elles. Comme donc le constituer des monopoles permet pour les Palestiniens de pouvoir contrôler les achats à l'extérieur, donc d'avoir des droits de douane. Mais comme les monopoles palestiniens n'ont pas le droit de s'adresser directement à l'extérieur, elles doivent passer par des monopoles israéliens correspondants. Donc, en fait, vous avez un partage de la rente de l'aide internationale entre entreprises palestiniennes et entreprises israélienne. La principale victime est le consommateur de base. Alors, il faut ajouter, pour être tout à fait clair, que les monopoles israéliens et les entreprises israéliennes qui travaillent avec les compagnies palestiniennes sont généralement tenues par des proches des gestionnaires du processus de paix. Des deux côtés. On a toujours insisté à raison sur la corruption de l'autorité palestinienne, mais il faut voir qu'elle est symétrique de la corruption israélienne et que les deux corruptions fonctionnent en même temps, par circuit de connaissance, par prélèvement, et ainsi de suite. Ce système de monopole est l'instrument de corruption par excellence puisqu'il échappe au contrôle financier de l'aide internationale. Outre le moyen de s'assurer la fidélité intéressée d'un certain nombre de cadres supérieurs de l'autorité palestinienne, cela permet à Arafat d'exercer lui-même un prélèvement sur ses ressources qui lui permet d'alimenter sa caisse noire qui échappe au contrôle international et au conseil élu de l'autorité palestinienne. C'est pour lui un instrument essentiel du pouvoir et le moyen de ne plus se retrouver dans la situation cauchemardesque qu'il a connue après la Deuxième Guerre du Golfe en 1991. Mais il faut voir que dans la constitution de la caisse noire d'Arafat, Israël joue un rôle, puisqu'Israël lui verse directement sur un compte d'Arafat ouvert à la banque Lemi en Israël l'argent du droit d'assise sur les importations des produits pétroliers. Autrement dit, Israël verse à Arafat directement sur sa caisse une partie des droits de douane dans une banque israélienne. Il faut bien comprendre que ce mécanisme essentiel de corruption est établi en liaison constante entre les deux parties. Il se développe ainsi une classe de ce qu'on appelle les VIP, Very Important Person, palestiniens qui mélangent affaires et politiques et qui disposent d'un certain nombre de passe-droits accordés par les Israéliens, en particulier en ce qui concerne la liberté de mouvement. Autrement dit, ceux qui font du business avec les Israéliens peuvent avoir des coupe-files pour traverser les barrages de l'armée israélienne. Et en même temps, ça donne à Israël un moyen de contrôle sur l'élite politique et financière de l'autorité palestinienne. Outre la division géographique de la population palestinienne, on a ainsi trois catégories dépendant étroitement de la bonne volonté israélienne. Il y a les VIP qui ont droit de circulation relativement totale, ceux qui disposent d'une autorisation d'accès en Israël pour travailler, quelques dizaines de milliers de personnes, et ceux qui n'ont de liberté de mouvement qu'au cas par cas, c'est-à-dire que pour se déplacer, ils ont besoin d'une autorisation donnée par les militaires israéliens. On a ainsi une gradation dans l'utilisation de la carotte et du bâton. Par ailleurs, sans que ce soit une règle absolue, les mieux équipés pour pouvoir tirer du profit du système sont les Palestiniens venus de l'extérieur et autorisés à résider, soit issus de la diaspora, soit bannis des territoires occupés pendant un certain nombre d'années par les Israéliens. Puisque les Palestiniens de l'extérieur, ceux de la diaspora, ils sont entrés dans les circuits industriels et financiers de la rente pétrolière du Golfe. Donc, ils dirigent des entreprises importantes, ils manient des capitaux, et ainsi de suite. Tandis que les Palestiniens de l'intérieur, ils ont été bloqués dans leur village ou dans leur quartier pendant l'occupation israélienne, et ils n'ont pas du tout les compétences nécessaires pour gérer des entreprises de ce genre. Le niveau réel de corruption de l'autorité palestinienne, s'il est important, doit être comparé avec celui de ses voisins arabes immédiats, qui est nettement plus élevé, en particulier en Jordanie et en Égypte. Celui d'Israël est aussi conséquent, mais il est combattu par des institutions judiciaires fortes qui n'hésitent pas à s'en prendre à des dirigeants, y compris des ministres, voire des premiers ministres. Ces mécanismes démocratiques n'existent pas dans l'autorité palestinienne, non seulement parce que la corruption est un moyen de gouvernement, mais parce qu'elle est aussi une conséquence de la situation d'occupation ou, plus directement, un corollaire du processus de paix. Le calcul immédiat est d'établir une classe de profiteurs du processus de paix intéressés à son maintien. Cela va des négociateurs, hommes d'affaires aux petits fonctionnaires qui échappent au chômage. Dans ce processus, Arafat apparaît non pas comme un corrompu, il conserve un mode de vie tout à fait ascétique et échappe à la mégalomanie de certains dictateurs arabes, mais comme un corrupteur. Outre le comportement dit patrimonial, confusion entre les ressources personnelles du dirigeant et les ressources publiques, commun à bien des régimes politiques arabes, il y a chez lui une pratique ancienne selon laquelle la corruption et le clientélisme sont le seul moyen d'éviter d'avoir recours à la violence débouchant sur la guerre civile. L'un des principes fondateurs du processus de paix était pour ses initiateurs l'amélioration régulière du niveau de vie des Palestiniens qui les ferait ainsi adhérer à la paix en tant que bénéficiaire économique et éventuellement ferait passer le médicament amer de perte territoriale. Loin d'accéder à l'autosuffisance économique et en dépit du progrès réel en matière d'infrastructure, l'économie politique de l'autorité palestinienne va directement dans l'autre sens. Dans les trois premières années suivant Oslo I, le produit intérieur brut des territoires a chuté de 22,7%. Entre 1993 et 1998, le taux de chômage est passé de 5,6% à 18,3%. On a calculé le coût du bouclage et des limitations de mouvement entre 1993 et 1996 à 2,8 milliards de dollars, soit l'équivalent d'une année entière de produit intérieur brut ou de la totalité de l'aide internationale pour la période considérée. Autrement dit, l'économie palestinienne s'affaiblit et le niveau de vie de la population baisse depuis le début du processus de paix. En fait, depuis le début de la première intifada, pour être plus clair. Le clientélisme et la corruption de l'autorité palestinienne et du Fatah se répercutent négativement sur leur réputation. Les islamistes, le Hamas en particulier, avec son réseau caritatif apportant une aide aux plus démunis, bénéficient au contraire d'une image d'honnêteté et de désintéressement qui s'ajoute à leur pureté de la défense intégrale de la cause palestinienne. Les contestataires du processus d'Oslo, comme Edouard Saïd, s'en prennent vivement à l'autocratie policière et à la corruption du système d'Arafat. Cette même accusation est utilisée par les Israéliens et les Américains quand Arafat se montre moins docile devant leurs exigences. Les parrains du processus de paix ne veulent pas admettre que ce mauvais gouvernement est largement le produit des accords d'Oslo. La corruption est le moyen de faire passer des contraintes considérées comme inacceptables par l'opinion publique palestinienne en créant une classe de profiteurs du système. On parle d'établir une démocratie palestinienne modèle et on demande en même temps la constitution d'un régime autoritaire capable de contrôler sa population au nom de la lutte contre le terrorisme. Ça, c'est tout le problème de l'autorité palestinienne, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, même si les comptes ces dernières années ont été épurés sur le plan financier. Alors, nouveau point, on va appeler ça Arahoma. À la mi-février 1997, Netanyahou se rend à Washington. L'accord d'Hébron a rétabli son crédit auprès des dirigeants américains. Ross veut obtenir de lui un vrai redéploiement de l'ordre de 10% de la Cisjordanie qui passerait en zone B. Netanyahou tergiverse et veut obtenir une compréhension américaine des besoins de sécurité israéliens en Cisjordanie et au Golan et évoque aussi des actions à faire à Jérusalem. Mais les Américains lui marquent qu'il comprend bien les exigences israéliennes de sécurité sur le Golan, mais dans ce cas-là, ça veut dire ne pas faire la paix avec la Syrie. Dans la suite de la visite, le Premier ministre explique qu'il est contraint par sa majorité de créer un nouveau quartier juif sur une colline nommée en arabe Jebel Abu Ghneim et en hébreu Homa, entre Jérusalem et Bethléem, isolant un peu plus la ville sainte de son environnement arabe. La réalité de la contestation parlementaire est manifeste. 17 députés, surnommés ironiquement la Force 17, allusion à la Force 17 des Palestiniens, menacent de quitter la majorité et le maire de Jérusalem, Ehud Olmert, pousse dans ce sens. Mais en fait, Netanyahou partage la vision du monde de ses apparents contestataires. C'est pour se dédouaner auprès des Américains qu'il se déclare forcé par les événements. Il sait disposer sur ce dossier de l'approbation de la plus grande partie de ses concitoyens juifs. De surcroît, à cause du Baby Gate, le Premier ministre et son entourage sont soumis à des interrogatoires de police, ce qui contribue à affaiblir sa position politique, et l'affaire lui offre une opportune diversion. Immédiatement, les Palestiniens ont fait connaître leur opposition résolue. Un tel projet serait contraire au processus de paix et risquerait d'y mettre fin. Très clairement, on s'achemine vers une nouvelle bataille de Jérusalem. En même temps, Arafat ouvre une conférence de dialogue national avec toutes les forces de l'opposition, à l'exception du djihad islamique qui boycotte la réunion. Arafat appelle à l'unité nationale, seul moyen de parvenir à l'établissement d'un État palestinien ayant Jérusalem pour capitale. La décision de créer 6500 logements réservés aux Juifs est annoncée le 26 février, tandis que l'armée et la police israélienne prennent leurs dispositions pour faire face aux violences. Les États-Unis marquent que cette décision n'aurait pas dû être prise, qu'elle est contraire aux négociations, mais il n'est pas question de dire, comme l'Union européenne, que les colonies sont illégales du point de vue du droit international. Avant de se rendre à Washington pour une visite prévue depuis longtemps, Arafat menace de proclamer unilatéralement l'indépendance de l'État de Palestine. Pour l'instant, le Fatah contrôle les manifestations afin de ne pas gêner la rencontre entre Arafat et Clinton. Elle a lieu le 3 mars en présence de Madeleine Albright. C'est la première fois que le président de l'autorité palestinienne est reçu seul par le président des États-Unis. Les fois précédentes, il y avait soit des Israéliens, soit d'autres Arabes avec lui. Les Américains reprennent leur critique de la décision israélienne qui a cassé l'élan créé par l'accord sur Hébron. Au nom du respect de la liberté de négociation, il n'est question pour les États-Unis de se prononcer sur la légalité de la mesure israélienne, ce serait préjuger du résultat final. Il est nécessaire de rétablir la confiance entre les parties pour pouvoir progresser. On décide ainsi la création d'un comité conjoint palestino-américain pour mieux gérer l'aide américaine et aider à la constitution d'un climat favorable à l'investissement privé dans les territoires palestiniens. Il sera co-présidé par la secrétaire d'État et le président de l'autorité palestinienne. C'est donc une élévation considérable des relations, bien qu'elle ne soit pas celle d'un État à un État. Cela marque aussi l'intention de Madeleine Albright de s'impliquer autant que son prédécesseur dans le dossier. Arafat se déclare satisfait de la bonne volonté manifestée par Clinton. Netanyahou n'y voit rien de nouveau et jette de l'huile sur le feu en annonçant la fermeture de 4 bureaux palestiniens à Jérusalem, tandis qu'Arafat est reçu pratiquement en chef d'État aux États-Unis. Il rencontre les anciens présidents Carter et Bush, il est reçu au Congrès, il va au siège des Nations Unies, et ainsi de suite. Au Conseil de sécurité, la discussion dure plusieurs jours. Finalement, la France, la Grande-Bretagne, la Suède et le Portugal déposent un projet de résolution reprenant le contenu des résolutions précédentes sur l'illégalité des colonies israéliennes qui constituent des obstacles à la paix et sur le respect des conventions de Genève. Le 7 mars, 14 pays votent le texte, mais les États-Unis imposent leur veto. Pour eux, le Conseil de sécurité n'est pas le forum approprié pour traiter de ces questions puisque les parties en ont fait l'objet de négociations. Du coup, les Palestiniens décident de saisir l'Assemblée générale. Parallèlement, on revient à la question du redéploiement israélien. Ross a accepté que les 10% pourraient comprendre des transferts de la zone B à la zone A, aussi bien que de la zone C à la zone B. Le prenant sur les mots, Netanyahou propose que l'on transfère 7% de la Cisjordanie de la zone B à la zone A, soit 50 villages, 200 000 habitants, mais aucune continuité territoriale, et 2% de la zone C à la zone B. Autrement dit, le redéploiement serait seulement de 2% de la Cisjordanie. Il explique qu'il a déjà du mal à obtenir de son gouvernement une majorité dans ce centre et il se présente qu'à la fois comme contraint par les États-Unis. Les Américains moroses déclarent attendre plus des prochains redéploiements. Et évidemment, les Palestiniens rejettent avec fureur la proposition. Ils avaient compris oralement de Peres que les trois redéploiements leur donneraient 90% de la Cisjordanie et qu'il ne resterait plus à négocier que le statut des derniers 10%. Ross essaye de calmer le jeu en obtenant du premier ministre israélien l'engagement de retarder les travaux et de prendre des mesures facilitant la vue des Palestiniens. Mais dans l'immédiat, faute d'accord, le redéploiement est suspendu tandis que la tension monte. Le 9 mars, le roi Hussein adresse une lettre de reproche à Netanyahou, l'accusant de vouloir mettre fin au processus de paix. Il ne peut croire que le premier ministre constitutionnellement le plus puissant de l'histoire d'Israël soit contraint d'agir sous pression, ni que le peuple israélien cherche l'effusion de sang, le désastre et s'oppose à la paix. Pourquoi chercher à humilier en permanence le partenaire palestinien ? Netanyahou lui répond qu'il n'accepte ni le ton ni le contenu de la lettre. Il a hérité d'un processus de paix en crise après la pire vague d'attentats terroristes. Le redéploiement annoncé est compatible avec les engagements pris, même s'il ne correspond pas aux attentes d'Arafat. Cet échange marque le rejet d'un axiome de la doctrine du Likoud, que les relations avec les pays arabes ne sont pas affectées par l'évolution du dossier palestinien. C'est ce que le premier ministre israélien marque en disant que les relations israélo-jordaniennes ne peuvent devenir otages des vicissitudes des négociations avec les Palestiniens, tandis qu'Arafat saisit tous les partenaires internationaux du processus de paix. Et Saeb Erekat, le chef des négociateurs palestiniens, explique « Le problème avec ce gouvernement, c'est qu'il négocie avec lui-même. Ariel Sharon négocie avec Netanyahou, lequel négocie avec David Levy, qui négocie à l'heure avec Nathan Sharansky. Et puis, lorsqu'ils se sont mis d'accord entre eux, ils nous humilient en nous imposant leurs décisions. » En réalité, Netanyahou ne cherche pas à faire la paix avec les Palestiniens, mais seulement avec sa coalition et à nos dépens. Et Arafat refuse de prendre les appels téléphoniques des Américains ou des Israéliens. Voilà, on va faire la pause ici. J'ai pitié pour vous. Et nous reprenons dans 5 petites minutes.